Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Radio Contournement dédié aux technologies no-code. Je suis super content de vous retrouver, ça faisait quelques temps depuis le dernier épisode. On est à l'épisode 102 et pour cet épisode, j'ai eu l'occasion de recevoir Thomas Boutefort, cofondateur d'Emile et désormais au wagon responsable des nouveaux produits du wagon qui font des bootcamps no-code, notamment, comme vous allez le voir, plein de sujets, de la formation, du no-code, des très belles aventures entrepreneuriales. Vous allez découvrir tout ça dans cet épisode. Allez, c'est parti. Salut Thomas, c'est parti pour l'enregistrement. Écoute, merci beaucoup de m'accueillir. Tu es un des cofondateurs d'Emile, que les gens dans la communauté no-code connaissent maintenant, puisque vous avez été acquis par le wagon. On reviendra là-dessus, on reviendra surtout sur ce qu'est Emile et votre présence dans le no-code et les formations que vous proposez, que vous proposiez, que vous proposez toujours maintenant, et les nouvelles qui vont venir, parce que c'est un des sujets justement très intéressants, ce que vous développez avec le wagon. Voilà. Est-ce que, pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Salut Alexis, merci de m'avoir invité, c'est trop cool. Donc je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur depuis ma sortie d'une grande école de commerce, hein. Je suis diplômé d'HEC. À la sortie d'HEC, j'ai rencontré des entrepreneurs qui montaient une nouvelle entreprise qui s'appelait Shaper, S-H-A-P-R. Donc je les ai rejoints directement dans l'aventure en tant que... C'est une histoire un peu marrante, j'ai commencé en tant que stagiaire de fin d'études parce que je voulais absolument monter une boîte mais j'avais pas d'idée. Donc ils m'ont un peu pris sous leur aile et on a vite pivoté pour pas mal de raisons et ils m'ont associé tout de suite au projet. Donc en fait c'est un peu devenu ma boîte parce que j'étais là, il n'y avait pas de produit, hein, tu vois. Donc j'ai travaillé avec eux au développement de Shaper pendant 6 ans jusqu'en 2019 à peu près. Shaper, c'est une application de networking, donc on a repris les codes de Tinder, donc l'expérience utilisateur et l'interface de Tinder, mais on l'a appliqué à la rencontre professionnelle. Donc tu swipes des profils, mais ça va être pour recruter des gens, pour faire du networking, pour trouver des clients, par exemple, avec ce système de volonté mutuelle avant de pouvoir échanger avec quelqu'un, qui selon nous était hyper importante pour se prémunir de tout le phénomène un peu de spam commercial qu'il y a sur LinkedIn, par exemple. Voilà. Parce que sur Shaper, tu ne peux être contacté par quelqu'un que si tu as préalablement dit que tu voulais rencontrer la personne.
Voilà. Le fameux match de
le
Tinder.
Le fameux match,
quoi.
Voilà, le swipe and match. Autour de ça, après, on a développé une offre premium. Shaper, j'ai eu deux casquettes. J'étais d'abord plutôt Head of Growth. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé vraiment sur les sujets techniques un petit peu de... on va dire du marketing et du produit, au sens large. Donc c'est là où je suis arrivé un petit peu dans la data, hein, ce qui a expliqué en partie la genèse d'Emile. Au démarrage, c'est là où j'ai fait aussi mes premières armes dans le no-code avec Zapier, hein, comme beaucoup de gens, évidemment. Après notre série A en 2017, puisque avec Shaper en tout, on a levé un peu plus de 20 millions d'euros, je suis plus une casquette un peu de COO, donc plus transversale. Donc beaucoup travaillé sur les process de l'entreprise, le recrutement, le lancement d'offres B2B aussi, puisque avec Shaper, on a lancé plusieurs offres B2B maintenant. C'est plus qu'une application de networking, il y a aussi du recrutement et ce genre de choses. J'ai quitté Shaper fin 2019, en super bon terme avec mes associés, puisque Shaper existe toujours. J'avais juste envie de voir autre chose un petit peu, c'était le bon moment pour nous. Et je te passe mes pérégrinations personnelles de vacances avortées pour cause de Covid et ce genre de choses. Et finalement, je me suis retrouvé avec Paul, qui était notre Head of Data chez Shaper, a travaillé dans un projet autour de l'éducation, au sens large, parce que Paul était déjà formateur dans un organisme de formation concurrent du wagon qui s'appelle JEDA. Voilà, donc ouais. Il adore enseigner. Et moi, j'interviens à l'incubateur HEC depuis plus de 5 ans maintenant. Pareil, j'aide les entrepreneurs sur des problématiques d'ops, de stratégie et de marketing. Donc on avait cette passion un peu commune de l'enseignement et on a commencé à regarder des projets là-dedans. Je te passe aussi les différents tests qu'on a fait avant Emile et on est arrivé à Emile qu'on a lancé en fin 2020. Donc Emile, c'est un organisme de formation un peu particulier dans sa forme.
Attends, je vais t'arrêter là pour qu'on creuse. Non mais c'est hyper intéressant. Mais justement en fait, tu as dit pas mal de trucs déjà qui en plus sont vraiment la genèse. Donc je me permets de rebondir un peu là-dessus pour qu'on creuse un petit peu, puisque comme tu dis, en plus, on voit bien déjà, là, juste dans ce que tu as dit, tout ce qui amène à Emile. Mais du coup, restons un tout petit peu là-dessus.
Bon, y a trois trucs, tu vois, que j'ai noté. Il y a le côté data, évidemment, le côté ops, et donc t'évoquais Zapier. Ça, c'est un peu les deux sujets. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être un peu concrètement, tu vois, justement, c'est quoi le métier un peu de CEO, ce que tu as fait, tu vois, dans le contexte de Shaper, et comment, tu vois, un peu les quelques exemples, peut-être, tu vois, là, c'est un petit focus un peu ops, tu vois, mais justement, moi, forcément, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et peut-être comment vous utilisez Zapier, peut-être d'autres outils no-code, je sais pas, dans ce contexte-là.
Ouais, bien sûr. Je pense que le métier de CEO, il dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Ouais. Je vois là, aujourd'hui, on a une super CEO au wagon qui s'appelle Virginie, qui gère toute la partie ops du wagon. C'est la plus grosse partie des effectifs du wagon. On est 220 dans le monde dans le wagon. Il y a 150 personnes qui sont dans son équipe élargie. Mmh. D'accord.
Surtout, on sait que la formation, notamment présentielle, c'est vraiment beaucoup d'ops, quoi.
Enfin, énormément d'ops. Ouais. Voilà, je n'ai même pas idée du nombre d'enseignants qui interviennent dans le monde entier avec le wagon.
Ouais, les sessions, les cohorts. Ouais. Enfin, est-ce que, juste, encore une petite incise, mais quel est le dernier numéro de batch du wagon? Parce que ils sont incrémentales à travers le monde, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, on a lancé un bootcamp en data analytics, donc je suis très impliqué. Et donc, le data analytics de janvier à Paris, c'est le 1118.
Ouais, putain, voilà. C'est incroyable.
Donc c'était janvier, donc on va arriver au 1200 là bientôt.
Ok.
Ouais.
Ok.
Donc je te dis ça parce que le rôle de Virginie aujourd'hui, c'est elle a vraiment un rôle de CEO d'une ETI, et donc là c'est beaucoup de gestion d'équipe pure, management pur, avec une délégation finalement de la réflexion ops, avec deux types d'équipes chez nous. On a une organisation matricielle, donc elle il y a des general managers de zone géographique.
Ouais.
Ces gens-là, ils ont une grosse partie de l'ops finalement de leur pays à leur charge, et il y a aussi une équipe qui serait une équipe revenu si tu veux dans des startups qui va être composée de plusieurs personnes qui eux vont être là pour optimiser les étapes clés du process ops au wagon. Tu vois, par exemple, on a Munich qui vit au Portugal. Elle gère la partie ops sur la partie sales et admission du wagon, donc les plus grosses équipes. Hein, tous les gens qui viennent au wagon, ils ont un entretien préalable au wagon, il y a des tests d'entrée, enfin c'est aussi un petit monde d'ops en soi.
Mmh.
Et donc Virginie, elle gère la partie géographique finalement et la partie comme ça d'optimisation. Chez Shaper, on était beaucoup moins, on était une quarantaine de personnes. Donc mon rôle de CEO, c'était de tester et de mettre en place des process qui n'existaient pas encore. Voilà. Un exemple concret que je peux te donner, c'est la partie recrutement. Voilà, un gros enjeu, évidemment, quand tu grossis, quand tu lèves de l'argent, c'est de recruter très vite. Donc souvent, les boîtes qui lèvent de l'argent, finalement, elles recrutent très mal, en fait, parce que recruter des gens, normalement, ça doit prendre du temps. Et donc, c'était de te faire en sorte de passer le moins de temps possible et d'essayer de minimiser le nombre d'erreurs. Donc, avoir des process de chasse, donc mettre en place de l'automatisation de chasse, comme tu ferais pour des clients, mais pour du recrutement. Mettre en place un ATS, donc un ATS c'est un Trello pour du recrutement, pour suivre les étapes, automatiser et brancher tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un truc concret que tu fais en tant que CEO. Et moi, je vois ça comme ça, c'est vraiment trouver les goulets d'étranglement les plus cruciaux dans l'entreprise et essayer de trouver une solution pour les débloquer, que ce soit en recrutant ou en automatisant. Bon, si je devais donner une définition de ce que je faisais.
Ok. Et alors là-dedans, du coup, tu parlais de Zapier. On aime bien toujours savoir un petit peu les outils aussi qui se cachent sous ça. Est-ce que c'était quoi un peu vos usages un peu plus concrets, quoi, tu vois,
Moi, je pense que j'ai vraiment eu le parcours de la personne qui découvre le no-code tout de suite. Donc, mes premiers apps, c'était d'alimenter des Google Spreadsheets avec des lignes et des lignes. Non, mais vraiment, enfin, voilà. Après, il y a eu l'étape d'après, c'était à l'update d'une ligne d'un Google Spreadsheet, faire des actions dans différents outils. Ensuite, quand on a lancé le B2B, j'ai installé HubSpot dans l'entreprise. Donc HubSpot, c'est aussi un petit monde d'automatisation en soi avec les workflows. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les workflows directement dans HubSpot. Et après, quand tu as des outils tiers, Zapier, c'est quand même hyper simple quand tu démarres pour brancher HubSpot avec pas mal d'outils tiers.
Tout interconnecté.
Ouais, ouais. Alors un use case un peu bête, pour reboucler aussi sur la partie data. À l'époque, je trouvais que la partie reporting data d'HubSpot n'était pas terrible. Surtout, elle était peu personnalisable. Et en plus, troisième problème, c'est que si tu veux croiser avec des données d'autres outils, c'est pas un data warehouse, c'est pas un entrepôt de données, donc tu peux pas croiser les données. Donc j'avais aussi utilisé Zapier au début pour bidouiller des trucs, pour récupérer certains leads dans un Google Sheets et après faire justement des jointures avec des VLOOKUP ou ce genre de choses.
Ok, et justement sur la partie data, qui est vraiment une de vos spécialités dans le bootcamp, Parce que je peux imaginer, on sait souvent un des use cases qu'on voit bien quoi, dans le, tout ce qui est recrutement, emploi, etc., matching justement entre des candidats et des postes. Vous faisiez des choses justement un peu comme ça, c'était peut-être justement le rôle de Paul. Enfin, que, tu vois, parce que
ouais, ouais, bien sûr,
un peu vous en dire. Parce que ça, tu vois, le big data, tout ça, c'est des trucs où on entend ça, c'est un peu un buzzword. Et en même temps, il y a des vrais trucs concrets, tu vois.
Ouais. Donc, Alors, nous, chez Shaper, vraiment sur la partie application, il y avait 3 grands usages de la data chez nous et on a vraiment essayé d'optimiser, de professionnaliser la data. Le rôle de Paul, notamment, Paul, il est data scientist de formation. Donc, c'était de créer, d'optimiser l'algorithme de matching. Parce qu'en fait, si tu as une application qui te montre des gens random autour de toi pour du networking, ça ne marche pas. Tu vois, c'est-à-dire que tu créer un algorithme qui va prendre un certain nombre de ce qu'on appelle des features, donc des variables, pour choisir les personnes les plus pertinentes autour de toi. Mmh. Ça va être les trucs simples, hein, c'est tes critères géographiques. Voilà. Tinder, c'est 2 trucs, hein, c'est critères géographiques. T'es un homme, tu veux voir des femmes, ben voilà. Et il y a aussi une notion d'activité. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Nous, on en a beaucoup plus. Il y a la localisation, quel type de personne tu veux rencontrer, quelle est ton industrie, ce genre de choses. Donc, un des usages de la data, c'était créer des algos vraiment pour faire le matching. Mmh. Et avec ça, il y avait un suivi de performance de l'algo. Voilà, parce que pour savoir que l'algo il fonctionne, faut bien suivre le taux de matching, le nombre de gens qui swipent à droite, les profils, ce genre de choses. On avait aussi, on était une app, donc problématique produit. Voilà, surtout sur un modèle freemium, donc gratuit pour l'utilisateur et payant si tu veux des fonctionnalités supplémentaires. Donc des grosses problématiques de rétention produit notamment, donc de faire en sorte que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur l'application. Donc là, on avait beaucoup de data pour analyser tout ça. Et on investissait beaucoup en marketing aussi chez Shaper, donc suivi de la performance de tes publicités ou ce genre de choses.
Ok, ouais, ça j'imagine que en fait, c'est un truc qu'on... Enfin, pas qu'on sous-estime, mais qui est moins visible, mais qui en fait, je pense... Enfin, d'ailleurs, on en parle pas mal avec Gaëtan qui s'occupe de l'acquisition chez nous. On en parle d'ailleurs aussi un peu avec Lionel, que je salue, qui nous a mis en contact, qui est un de vos formateurs. Mais ouais, qui permet non seulement de suivre les performances, mais surtout probablement de rendre plus performantes les publicités, les funnels d'acquisition.
Ah oui, bien sûr. On fait jamais de la data pour la beauté de la data. C'est-à-dire que on le répète dans tous nos programmes, hein, c'est qu'on utilise de la data pour répondre à une problématique. Donc on suit les performances des publicités Facebook, par exemple, parce que quand tu commences à dépenser beaucoup d'argent sur Facebook, d'améliorer de 0.01 ce qu'on appelle ton CTR, donc le nombre de gens qui vont cliquer par rapport aux impressions, ça change tout vraiment sur tes performances.
Ouais, j'imagine. C'est parce qu'en fait, finalement, il y a tout cet enjeu sur la data aussi, c'est d'analyser la donnée.
Ouais.
Finalement. Et est-ce que ça, c'est... Alors peut-être on va en parler plus justement dans vos formations, tu vois, mais comment tu vois ça, tu vois, le métier un peu de data analyst, tu vois, entre les gens qui récupèrent les données, qui apprennent à les... tu vois, je sais pas, à les manipuler, et puis ceux qui les analysent. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que c'est...
Alors ça, c'est un très vaste sujet,
ouais,
qui est hyper intéressant puisque, comme tu le disais, on parlait du big data dans les années 2010. Mmh. Là, on arrive à un moment où l'industrie vraiment est beaucoup plus mature. Donc, je pense qu'il y a 4 types d'opérateurs data maintenant dans des entreprises qui utilisent beaucoup la data. D'accord ? Et en fait, la variable d'ajustement, ça va être ton volume de données et l'investissement que tu vas mettre dedans. D'accord ? Donc, je vais te donner un exemple très concret. La startup qui n'a pas beaucoup de données, il n'y a pas de personnes qui font de la data, tu vois, a priori. Chez Carrefour, tu as toute l'équipe. Mmh. Sans rentrer trop dans les détails, il y a 2 métiers techniques là-dedans. Il y a le data ingénieur. Donc le data engineer, c'est celui qui va faire en sorte qu'il y ait un développeur, qui va faire en sorte que la data elle arrive au bon endroit, dans le bon format, au bon moment, sans que ça coûte trop cher pour l'entreprise, parce que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le data scientist, donc l'ancien poste de Paul, c'est de réaliser des analyses qui sont très complexes, des analyses prédictives et de faire des algorithmes. Et il y a le data analyst, donc, qui est, selon nous, le métier aujourd'hui qui a le plus de traction dans l'univers de la data, parce qu'en fait, dès que tu as des data, tu dois les analyser.
Mmh.
Okay. Et pour nous, il y a un 4e type d'opérateur, et c'est pour ça qu'on a lancé Emile. En fait, on pense qu'une équipe qui utilise bien sa data, c'est une entreprise qui a une équipe data, mais surtout, c'est une entreprise dans laquelle les gens qui travaillent au marketing, aux produits, en finance, ont des savoir-faire en data pour être capables même de réaliser des analyses triviales ou même un petit peu avancées. Parce que le data analyst ou la data analyst n'est pas capable de répondre à toutes les questions de toute l'entreprise. Ça n'existe pas. Voilà. Et le but des programmes Emile, justement, c'est de former ces gens-là qui ne sont pas des professionnels de la data à bien l'utiliser.
En fait, c'est intéressant parce que c'est un peu le même parallèle que je ferais avec les devs et le no-code. Et c'est-à-dire que souvent dans les startups, tu as une équipe technique de devs qui va être dédiée à créer le produit de la startup. Mais à côté, quand l'équipe marketing, admettons, a besoin de faire un site web, elle va pas aller solliciter les devs qui travaillent sur des trucs beaucoup plus avancés et donc ils doivent être en capacité de faire eux-mêmes, et d'où l'intérêt de des outils, etc. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, si on généralise un peu ça, je pense que il y a bien une raison du coup pour qu'on ait cet échange ensemble et tout ça, c'est que tous ces différents sujets techniques, que ce soit la donnée, que ce soit la création numérique, enfin, toutes ces choses-là, en fait, sont en train d'être vastement démocratisées grâce à différents outils, dont les outils no-code, et finalement pour que tout le monde puisse s'en servir dans l'entreprise déléguer un peu, je pense, décharger un peu les gens très techniques qui sont en pénurie, d'une part, et puis qui ont déjà beaucoup de travail, enfin, les DSI dans les grosses boîtes, etc.
Et comme ChatGPT va pas tuer le métier de journaliste, voilà, le no-code et la démocratisation des outils data vont pas du tout tuer le métier de développeur et le métier de data. Non, c'est juste que on va pouvoir collectivement dans une entreprise être beaucoup plus productif sur des sujets techniques parce qu'il y a plus de personnes dans l'entreprise, selon moi, qui vont être capables de prendre un petit peu du sujet.
Ouais.
Voilà, on va faire plus en fait tous ensemble.
Super intéressant. Et alors du coup. Comment est-ce que vous faites ça chez Emile? Quelle est un peu, tu nous as dit du coup un petit peu la genèse du projet. Quand vous êtes dit ok, on va faire Emile, comment est-ce que vous avez imaginé le format de formation, enfin les contenus, la manière de faire?
Ouais, donc Emile, comme je te le disais, on a voulu lancer Emile pour former vraiment des gens qui travaillent avec de la data sans être professionnels de la data, à bien l'utiliser. D'accord, donc selon nous, ces gens-là, avant Emile, hein, sans toute humilité, ils avaient le choix soit entre s'auto-former totalement, parce qu'il y a plein de ressources gratuites géniales, hein, sur Internet, ça, il n'y a pas de doute, mais c'est long, c'est fastidieux, tu n'as pas de retour d'expérience d'un professeur, enfin, tu dois un petit peu chercher de l'info. Donc moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire de la data, par exemple. C'est-à-dire que j'ai appris à faire du SQL et du Power BI moi-même.
Ouais, mais aussi peut-être parce que tu avais le contexte.
Et j'avais le contexte.
Tu avais les données.
Et j'avais des problématiques concrètes à régler au jour le jour. Donc voilà. Mais alors, si en plus tu n'as pas ça, là, c'est carrément catastrophique, quoi. Et tu avais le choix entre ça ou faire un bootcamp le wagon. Sauf qu'un bootcamp le wagon, c'est 9 semaines à temps plein. Voilà. Donc, c'est juste. On donne cette image à chaque fois, mais c'est un peu un bazooka pour tuer une mouche. Tu vois, ça n'a pas de sens en fait, de faire ça. Donc, on a voulu créer un modèle hybride, nous, qui était destiné à des gens qui travaillent. Hein. Non pas qu'on ne veut pas des gens qui ne travaillent pas, mais notre cible principale, c'est des gens en activité. Et donc. Nous, notre parti pris, c'est que pour apprendre et pour être opérationnel rapidement, il faut faire. Voilà. Ça, c'était vraiment le point de départ de toute la réflexion d'Emile. Et donc, comment est-ce que tu fais en sorte que les gens y puissent vraiment faire? Ben, un, tu fais pas que de l'asynchrone. Voilà. Donc, nous, on a monté un modèle qui est 100% à distance, d'accord, mais dans lequel la majeure partie de ta formation, tu la passes en visio avec un prof et d'autres élèves où tu pratiques énormément. L'autre élément qu'on voulait aussi intégrer dans la partie pratique, c'est que si tu pratiques sur des données qui sont totalement théoriques, en fait, tu vas être capable de faire un peu de Python, mais tu seras incapable de l'appliquer dans ton cadre professionnel. Donc on voulait que chacun de nos parcours soit extrêmement immersif. Et pour faire ça, la data, c'est génial, c'est comme le no-code. En fait, bon, alors, la data, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Il suffit de récupérer des données d'entreprise, d'anonymiser les données, et en fait, de recréer un parcours de formation autour de vraies données. Voilà. Et donc, comme j'avais créé Shaper avant, tu vois, le premier programme, on l'a lancé autour de Shaper. Et donc, notre programme qui s'appelle aujourd'hui Data Analytics Essentials, c'est un programme qui est destiné aux gens qui veulent mieux analyser leurs données, c'est-à-dire qui font de l'Excel aujourd'hui, mais qui se rendent bien compte des limites d'Excel et qui veulent apprendre à faire un peu de SQL, donc le langage pour requêter des bases de données, et un peu de visualisation, donc les outils qui permettent de faire des dashboards avec beaucoup de données. Et ces gens-là, on leur apprend ça en utilisant les données de Shaper. Et en fait, quand tu viens chez Emile, tu reproduis les dashboards qu'on voyait au COMEX de Shaper, en fait, pour apprendre à faire de la visualisation et du SQL.
C'est hyper intéressant. Et j'ai lu d'ailleurs dans un article en préparant là, que vous aviez d'autres, je ne me souviens plus des noms, enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'après vous avez réussi à avoir d'autres boîtes qui vous donnaient qui vous donnaient des données, que vous anonymisiez évidemment.
On a des exemples. On a Job Teaser. Qui nous a passé des données produits. Donc là, les gens, ils vont analyser des funnels vraiment du produit Job Teaser pour les étudiants. Donc c'est génial. On a des données de Fox Intelligence qui a été racheté par Nielsen récemment. Alors Fox Intelligence, c'est un outil de veille économique. C'est-à-dire qu'ils permettent à des e-commerçants d'avoir des données de leurs concurrents. Vous voyez, sur les paniers moyens, le nombre d'items dans un panier, par exemple. Et donc, on a des données qu'ils avaient récupérées de Deliveroo et d'Uber Eats en 2017, quand ils se sont lancés en France, sur la livraison de nourriture. Bref, on en a pas mal d'autres. Là, on en a d'autres qui arrivent que je ne peux pas encore citer.
Okay.
Mais ouais, on a aujourd'hui quasiment une dizaine de partenaires.
Ok, c'est hyper intéressant. C'est vraiment, enfin, on est vraiment d'accord hein, sur le côté, il faut pratiquer. Mm. Mais tu vois, il y a toujours ce truc de... moi, je ne crois pas trop à faire... j'avais vu ça quand je bossais à Simplon, notamment, tu vois, mettre des élèves dev en contact avec des assos et quoi, pour leur faire faire des vrais sites. Et ça, même si je pense que l'intention est bonne, ça marche pas parce qu'en fait, derrière, bah, en face, t'as quand même plus ou moins un client, mais qui paye pas. On a eu plein d'élèves qui se sont retrouvés un peu en position d'échec, tu vois, parce que bah, derrière, ils n'arrivaient pas à délivrer. Ou alors les gens qui n'étaient pas contents, on leur avait promis un site, mais en fait, ça ne délivrait pas. Donc, tu vois, moi, je crois vachement au fait de faire des exercices pédagogiques. Mais pour autant, il faut que ces exercices soient réalistes, quoi. Et donc, je pense que dans la data, d'avoir justement, ça, alors, c'est vraiment ce truc.
Complètement. Et c'est très compliqué de créer des programmes Emile, de toute façon, parce qu'il y a vraiment de. C'est un peu galvaudé, mais il y a de l'ingénierie pédagogique. Mmh. C'est-à-dire que d'utiliser des vraies données, oui, mais il faut que les concepts ils soient progressivement difficiles.
Mmh, hein. Absolument.
Il faut contextualiser d'une certaine manière où les gens comprennent ce qu'ils font. Voilà, il faut préparer aussi un petit peu la donnée. En fait, il faut vraiment contrôler l'expérience pédagogique. Sinon, ça ne marche pas. Nous, voilà. On permet aux gens quand même à la fin de faire leur projet de fin de formation sur leurs propres données. Mais pour totalement...
C'est à la fin. Donc
ouais.
C'est...
Et en plus, pour aller totalement dans ton sens, on leur demande s'ils font ça de nous présenter avant ce qu'ils veulent faire pour leur dire « Attention, potentiellement, tu es en train de partir dans une usine à gaz. »
Que ce soit réaliste et que ça soit quand même cohérent avec... Et juste par curiosité, par exemple, Job Teaser, ils attendent quelque chose en retour ou ils vous donnent ça juste parce que... Est-ce que vous leur présentez des conclusions que vous tirez ou je sais pas, tu vois, enfin...
Alors, ils attendent pas ça, non. Au contraire, nous, le but, c'est pour rendre un petit peu industrialisable la démarche, on a besoin d'avoir des données, en fait, pour lesquelles potentiellement Job Teaser a déjà eu des conclusions.
D'accord.
Voilà. Parce qu'en fait, on sait comme ça où est-ce qu'un peu il faut amener les étudiants. Ce que Job Teaser il va attendre par contre de notre côté, ben, un des nerfs de la guerre comme tu le sais de l'entrepreneuriat dans tous les sens, c'est le recrutement. Et donc nous on est potentiellement un vivier pour eux
d'accord, avec j'avais pas pensé
voilà, de profils qui sont bien formés en data, au produit, au marketing, et maintenant qu'on est au wagon, ben là on forme carrément des gens à devenir data analyst. Donc
ok, ouais, oui, non, donc c'est hyper malin, oui, parce que de toute façon, toutes ces boîtes, si elles ont toutes ces données, c'est que forcément, elles ont des équipes où c'est un sujet pour elles, elles travaillent dessus, et donc potentiellement, il faut pouvoir recruter, quoi. Et c'est, tu dirais que data analyst, enfin, c'est un peu bête ce que je vais demander, mais bon, c'est quand même, mais c'est un métier en tension, il y a du potentiel, est-ce qu'il faut faire 10 ans d'études pour pouvoir le faire ? C'est un peu.
Alors, est-ce qu'il faut faire 10 ans d'études pour être data analyst ? Non. En fait, c'est selon moi le métier le plus abordable des trois métiers data,
ouais.
Parce que c'est le métier un peu comme un product manager dans une équipe tech. C'est un métier où tu es un petit peu à cheval entre le business, on va dire au sens large, et la partie technique.
Okay. Donc,
un bon data analyst, c'est pas un pur technicien du tout. C'est quelqu'un qui doit bien comprendre les données sous-jacentes et les problématiques sous-jacentes pour lesquelles il travaille. C'est pour ça qu'au wagon, là, on a créé un bootcamp data analyst, du coup. Et selon moi, ce métier se prête très bien à la reconversion. Puisque si tu as de l'expérience en marketing avant et que nous, on t'apporte la partie technique, finalement, en fait, tu es potentiellement un super candidat pour une entreprise qui veut avoir un data analyst orienté justement données marketing. Voilà, avec cette double casquette. Donc, sur la partie prérequis, entre guillemets, il ne faut pas 10 ans d'études. Hein, des gens qui font 5 ans d'école de commerce deviennent data analyst junior aujourd'hui. Ça se prête bien à la reconversion. Sur le métier en tension, alors j'ai un peu peur avec ce terme moi parce que
ouais je l'utilise un peu ouais.
Non mais c'est pas contre toi hein, mais je peux te dire que nous on a fait pas mal d'analyses en France et aux US. Pour donner un ordre de grandeur, il y a deux fois plus d'offres d'emploi ouvertes pour être data analyst que data scientist aujourd'hui dans ces marchés.
Ok. Alors,
et on parle aux États-Unis, on parle de plusieurs dizaines de milliers, on parle de un peu plus de 10 000 en France. Voilà.
Okay.
Donc, il y a de la demande, ouais, clairement.
Et par rapport au troisième métier qui est donc celui
le
plus technique.
Le data ingénieur.
Ouais.
Ouais. Le data ingénieur, ça va dépendre un peu de la maturité des marchés sur la partie data. Parce qu'en fait, le data ingénieur, il est vraiment là pour faire en sorte que l'architecture data soit impeccable.
Mmh.
Donc, ça sous-entend déjà que tu as beaucoup de données et que tu as entamé des vrais investissements pour faire quelque chose avec. Voilà. Lui, il est vraiment clairement en tension, je pense. Okay. Parce que même s'il y a moins d'offres, Il y a très peu encore aujourd'hui de data ingénieurs.
Ouais. C'est peut-être aussi celui qui demande, j'allais dire, peut-être le plus de formation. Je ne pense pas que ce soit vrai, parce que je pense que data scientist aussi, il y a quand même une partie quand même, où tu t'es obligé d'être formé. Quoi. Je veux dire, c'est des algos, c'est des modèles, etc. Enfin, ouais. Tous, il faut se former.
En fait, si on
tous,
simplifie, si tu veux, data en fait, les trois ont un socle data. Voilà. Le data analyst, il a un socle data et business. Le data scientist, il a un socle data et mathématiques. Ouais. Voilà, la partie algorithmique. Mmh. Et le data ingénieur, il a un socle data et technique.
Et dev,
c'est un dev, en fait. C'est un dev back. En fait, c'est un DevOps. Ouais, c'est un DevOps sur la data, pour ceux qui connaissent. Et au wagon, on a fait une expérimentation, là, justement, pour un bootcamp data ingénieur. Et le prérequis pour être data, rentrer dans ce truc-là, c'est d'être déjà data scientist ou data analyst.
Tu vois. Okay.
C'est un peu le drac au feu de la data quand même. Quoi. C'est beaucoup plus technique.
Ok, je suis pas hyper calé en Pokémon, donc je sais que c'est un Pokémon au moins.
Mais la dernière évolution de Salamèche. Voilà.
Ok, d'accord. non, mais c'est super intéressant. C'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé dans le podcast. Enfin, tu vois, c'est un sujet que moi je maîtrise pas du tout, et je trouve ça hyper hyper cool parce que. Enfin, nous, tu vois, le sujet de l'employabilité, on pourra parler aussi plus côté un peu plus no-code. C'est un vrai sujet. En ce moment, bah voilà, tout le monde en parle. Et en même temps, il n'y a pas de job clairement établi, vraiment. Il y a des gens qui veulent faire des product builders, il y a des opérateurs. On a plein de... Je suis curieux aussi d'ailleurs d'avoir un peu vous aussi les mots que vous employez. Mais voilà, par contre, dans la data, c'est un peu plus mature. Donc, ces choses-là, enfin là, tu vois, cette typologie que tu nous fais est très claire. Donc, c'est hyper intéressant. Et oui, tu vois, et sur le, juste pour rebondir sur le côté métier en tension, tu vois, moi, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais à Simplon sur le métier de dev. Et en fait, je trouve qu'il y a un vrai problème, et tu me diras si c'est un peu la même chose dans la data, mais c'est, je pense qu'on dit toujours que les gens, les devs sont en métier en tension, alors que la réalité, c'est que le marché a été inondé de développeurs juniors, quoi. Et en fait, c'est pas le métier de dev qui est en tension, c'est les développeurs expérimentés, quoi, qui manquent cruellement.
Ouais, puis ça prendra juste du temps pour que les juniors deviennent expérimentés.
Exactement, les bons juniors, quoi. Parce que les, enfin, tu vois, bon, je peux pas parler du wagon ou quoi, mais il y a quand même énormément de bootcamp.
Ouais.
Tu vois, et je veux dire, à Simplon, malheureusement, il y a plein de gens qui sortaient de Simplon. Deviendront jamais dev, quoi. Enfin, c'est, et donc, mais par contre, les bons, s'ils vont dans des bonnes boîtes où ils bossent bien, ils vont devenir des bons développeurs quoi, en quelques années, comme tu dis. Ça, il faut attendre qu'ils évoluent, quoi.
En fait, sur n'importe quel bootcamp du wagon, nous, on le dit très clairement aux gens. C'est-à-dire que en 3 mois, tu vas pas être un data scientist ou un data analyst ou un développeur expérimenté. Ça n'existe pas, en fait. Ça ne peut pas exister. En fait. C'est-à-dire que tu peux pas dire ça et en face de toi, tu as quelqu'un qui a fait 5 ans d'études d'ingénieur. Voilà, et tu dis bah en fait moi en 3 mois j'ai réussi à faire ce que t'as fait en 5 ans, ça n'a pas de sens.
Ouais.
Donc nous il y a beaucoup de gens qui font le bootcamp web dev qui vont sur du produit, tu vois, et qui là sont des super super profils en produit, puisqu'en fait c'est des gens qui ont, c'est pas un vernis technique, c'est-à-dire qu'ils savent vraiment techniquement comment ça marche.
Ouais.
Voilà. Il y a des gens qui deviennent dev, il y a des gens qui deviennent freelance dev, il y a des gens qui deviennent prof chez nous, tu vois, le temps justement de se faire un peu de l'expérience pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et aussi à l'opposé de ça, je t'en parlais pour les data ingénieurs, et chez nous pour les data scientists. Bah, en fait, on ne prend pas des gens qui n'ont pas déjà un petit peu de background en Python et en mathématiques.
Voilà. Okay.
En disant déjà que c'est compliqué en 3 mois de pouvoir prétendre aller sur ce genre de métier. Si en plus, vous n'avez pas l'expérience avant, c'est juste... Enfin, ça, selon moi, c'est un peu fallacieux quoi, de dire à des gens qu'il n'y a pas de problème.
Non, c'est clair. Ouais. Après, il y a des gens qui arrivent un peu à compenser parce qu'ils vont bosser nuit et jour.
Bien sûr.
Il y a un peu de tout quoi, dans les bootcamps.
Et puis, il y a des gens qui vont faire le bootcamp, qui vont avoir de la tchatch et qui vont réussir à trouver un premier projet freelance tout de suite en dev, où ils vont se... Voilà, comme tu dis, ils vont se dépatouiller, travailler nuit et jour. Et puis comme ça, ils vont y arriver aussi. Hein. Je veux dire, mais l'effort va devoir être extrêmement important.
Ouais, tôt ou tard. Mais donc là, on est parti un peu plus, finalement, on a plus parlé quand même du côté du bootcamp long, donc qui est plus finalement le format du wagon. Mais on va y venir, mais justement pour revenir un petit peu sur Émile, donc ces formats plus courts, donc c'est quoi, c'est 6-8 semaines
Ouais. Alors pour te le dire très clairement, donc c'est 8 semaines de formation. Pendant ces 8 semaines, chaque semaine, tu as 2 sessions de 2h30 en visio, donc de pratique. C'est les lundis et les jeudis soirs de 18h30 à 21h. Pendant ces sessions de pratique de 2h30, tu peux poser tes questions sur la partie théorique du cours que tu as regardé à la maison. Okay. Et surtout, ce que tu fais, c'est que tu vas pratiquer. Donc, tu vas mettre en application ce que tu as appris. Par exemple, pour le no-code, on va en parler, je pense qu'on va lancer quelque chose sur Webflow. Bah, tu crées ton site sur Webflow pendant ces séances de pratique. Tu as avec toi d'autres étudiants. Donc, on essaye vraiment d'insuffler cette partie peer learning.
De cohorte.
Ouais, de cohorte et d'apprentissage par les pairs.
Combien à peu près les cohortes d'Emile?
En moyenne, quand tu prends l'histoire d'Emile, c'est une quinzaine de personnes.
Okay.
Et avec toi, tu as un ou plusieurs professionnels donc, du sujet en question qui vont être là vraiment. Moi, je trouve cette image, c'est comme si tu étais en stage dans ce que tu es en train d'apprendre et tu as accès à un manager quand tu veux. C'est-à-dire que tu peux l'appeler quand tu veux, quand tu es bloqué, il peut te partager son expérience. Et à la fin, le professeur, enfin l'intervenant, on va plutôt dire, il va aussi faire une correction, c'est-à-dire qu'il va montrer comment lui, il fait, il résout les principaux problèmes. Voilà. Donc ça dure 8 semaines. Tu fais tes 2 sessions donc, par semaine. La partie apprentissage, elle dure 6 semaines sur ces 8. D'accord ? Donc pendant vraiment 6 semaines, tu vas suivre notre contenu pédagogique et notre parcours pédagogique. Et les 2 dernières semaines, elles sont dédiées à ce qu'on appelle un projet de fin, okay. Où on te demande de remobiliser les compétences en fait, que tu as apprises pendant les 6 premières semaines sur un projet. Et c'est là où on t'invite à travailler sur tes propres problématiques. Voilà. Ce qu'on trouve aussi dommage, nous, pas mal dans la formation aujourd'hui professionnelle, c'est que certaines fois, elle est trop décorrélée de ce que tu fais au quotidien. Mmh. Et donc nous, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fossé entre ce que tu apprends et ce que tu fais au quotidien, en fait, on propose aux gens de commencer à travailler, à mettre en application ce qu'ils ont fait. Voilà. Et donc là, tu as des sessions dédiées à tes projets où tu travailles sur tes projets et on t'aide. Et après, tu présentes ton projet à la fin.
C'est une vraie demande, tu vois, que nous on a souvent, et ça c'est un des inconvénients, tu vois, tu le disais un petit peu au début, tu vois, que, par rapport au côté asynchrone, tu vois, ça, c'est-à-dire que c'est un des trucs que vous résolvez. Nous, on a cette demande, tu vois, nos formations, elles sont génériques, ouais. Puisqu'elles sont, et c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce truc de, ok, bah, et comment moi j'applique maintenant. Donc après, bon, ça c'est question après de contenu, etc. Mais c'est, je vois bien l'intérêt, effectivement, ça c'est très intéressant à préciser, parce que nous, sur une partie de notre activité qui n'est pas asynchrone, justement, on a souvent ça, quoi. Et en fait, c'est un peu, je pense que c'est un peu une illusion pour les gens de croire qu'on peut faire des trucs complètement packagés, quoi. Enfin, tu vois, je pense, tu vois, et parce que c'est une demande et c'est normal. Les gens, ils se disent, ok, bon, c'est bien, je veux me former. Parce qu'il y a des gens aussi qui veulent juste faire ce dont ils ont besoin.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand tu fais juste ce dont tu as besoin, c'est pas forcément pédagogiquement le meilleur moyen d'apprendre à utiliser les outils, à comprendre la démarche, etc. Ouais. Mais les deux, comme tu dis, ça a l'air très intéressant.
Et en plus, si je peux me permettre, le no-code et la data, je pense que c'est aussi quelque chose où les gens, ils ne font pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils pourraient faire.
Ouais.
Il y a un problème de projection sur ce que tu pourrais faire. Moi, je connais bien aujourd'hui les outils d'automatisation et les gens ont l'impression que je suis un magicien, alors que pas du tout. C'est-à-dire que si eux, ils étaient un petit peu rentrés aussi dans les outils avec un parcours pédagogique, ils auraient conscience des possibilités et en fait, ils feraient ça. Voilà.
Bien sûr.
Et donc, le fait d'avoir un parcours pédagogique où on te prend par la main et on te dit regarde, regarde tout ce que tu peux faire en même temps, ça ouvre aussi un petit peu les chakras finalement pour que les gens puissent faire à la fin.
Ouais, ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et alors, du coup, j'ai deux questions. Première, c'est qui un peu les gens, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais le type de personnes, tu vois, qui suivent vos formations.
Alors, on a 4 programmes data aujourd'hui et 2 programmes no-code maintenant. Donc, les programmes no-code, on vient de les lancer. Donc, j'ai des personas hypothétiques en tête, mais je ne peux pas signer avec mon sang. Ouais. Et les 4 premiers data. Il y a quand même, on a un programme qui est un peu technique, qui s'appelle Python et Machine Learning, donc je le mets un petit peu à part, mais les 3 premiers, donc Data Analytics Essentials, apprendre à analyser la donnée, Growth and Data Automation, là c'est notre premier no-code en fait, c'est automatiser les process, et Web Analytics, Google Analytics et Google Tag Manager globalement. Sur ces 3 là, c'est un petit peu quand même commun. Le dénominateur commun, c'est je travaille dans le digital, je ne suis pas technique, j'ai entre 25 et 45 ans. Voilà. Et là, il y a deux sous-problématiques. Soit j'ai une problématique au quotidien que je n'arrive pas à résoudre. Voilà. Donc je vais donner un exemple. Je veux faire des tableaux de bord automatisés de mon activité parce que je passe 4 heures par semaine à télécharger des CSV pour faire un Excel. Voilà. Ok. Bon, bah, fait data analytics essentials. Donc, ça, c'est la première problématique. L'autre problématique, c'est je me rends compte que pour évoluer dans ma carrière, je commence à manquer de certaines choses. Et je veux en fait d'un coup d'un seul tout apprendre. Voilà. Ouais. Et c'est ça qu'on leur propose. Okay. Et le Python et le Machine Learning, c'est aussi, on a aussi des profils plus techniques, c'est-à-dire qu'on a déjà des gens en data, on a des gens en finance aussi qui en fait, eux, ont vraiment identifié que Python, ça leur permettrait de remplacer Excel. Donc c'est un peu particulier.
Ouais. Voilà. Mais et du coup, c'est toujours des gens en poste, enfin, dans la grande majorité des cas.
Ouais, 95% de nos étudiants étaient en poste. Ouais.
Est-ce que c'est la boîte qui paye pour eux ou c'est les gens en général qui veulent faire ça pour acquérir la compétence ou c'est un mélange des deux ou je sais pas.
Ouais, très bonne question. Alors nous, on a une approche vraiment B2C du marché. C'est-à-dire que c'est les gens qui prennent l'initiative pour eux de se former, ce qui est un gros avantage, comme tu le sais, d'un point de vue motivation d'élèves. Puisque on t'a pas forcé à venir à l'école. Voilà. En revanche, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens demandent à leur entreprise de justement prendre en charge parce que bah, ça a tout sens.
Ce qui paraît cohérent.
Oui,
s'il ramène ses compétences dans l'entreprise.
Complètement.
Mais ouais.
Et nous, après, on a. Ce qui est sympa dans ce modèle d'un point de vue économique, c'est qu'après, les gens sont contents, donc ils en parlent dans l'entreprise. Donc après, il y a d'autres gens de l'entreprise qui veulent venir. Ou... Voilà, donc...
Vous faites des fois des cohortes entières d'une boîte, existe ça ?
Alors, en tant qu'Emile, on ne le faisait pas. Maintenant qu'on est au wagon, on le fait de plus en plus. Bah, justement, on est dans les bureaux de la partie B2B du wagon,
une partie
qui est plus méconnue, mais qui est en pleine croissance, justement. Où là, on est sur une approche entreprise. C'est vraiment, on prend des cohortes de gens. Voilà.
Intra-entreprise, comme
exactement,
on dit.
Exactement.
Ok. Et ça, j'avais une autre question. Ici, est-ce que tu veux donner les prix, enfin les ordres de prix ?
Oui, bien sûr. On a un petit peu modifié les prix récemment, mais pour faire très simple, les 4 formations, elles coûtent à peu près 1 500 € en moyenne.
Ok.
Voilà. Et avec ça, tu as donc ça fait 40 heures de pratique, tu as accès à la partie asynchrone sur la partie théorique et accès à la communauté du wagon aussi à la fin.
Ok. Et alors, une petite question un peu plus sur le volet, on va dire, des ops, des milles, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, et donc c'est toujours le sujet, c'est un peu méta du coup par rapport à la formation et tout, mais
c'est l'inception.
C'est quand même intéressant, non mais parce qu'il y a un truc quand même que je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte, tu vois, enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est que vous avez fait tout ça à deux.
Ouais.
Et donc vous avez formé quand même pas
avec
mal
avec l'aide de stagiaires et de Nico que je salue. Voilà.
Et puis après des intervenants si j'ai
pas bien sûr. Alors les profs c'est des freelances bien sûr.
Mais du coup un peu comment vous avez monté ça tu vois enfin
Alors sur la partie ops très rapidement, donc nous on a bootstrappé vraiment le programme au démarrage, c'est-à-dire que premier programme écrit par Paul et moi, on a fait toute la partie marketing, on donnait tous les cours, donc ça a bien, super bien fonctionné. On s'est dit, comment est-ce qu'on fait un petit peu de croissance, hein, comme chaque entrepreneur. Et là, l'idée qu'on a eue, c'est de dire, je pense qu'on pensait être capable de créer une structure d'un point de vue ops qui nous permettait non pas d'industrialiser un programme, parce que comme tu sais, dans la formation, tu peux pas faire du x15 comme sur un produit digital pour de la formation, surtout avec notre partie ops, nous.
Ouais.
Voilà. En revanche, on s'est dit, on peut industrialiser un petit peu la création de contenu. Voilà. Et donc, pour industrialiser la création de contenu, il faut deux éléments principaux. Un, il faut externaliser la création de nouveaux contenus. En fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Donc, on a travaillé avec des super auteurs qui ont créé les 3 autres programmes d'Emile, en fait, et qui ont été évidemment rémunérés pour le faire.
Est-ce qu'ils étaient toujours aussi les intervenants ?
Ouais, au début, ouais.
Ouais.
On les oblige au début parce que, comme malheureusement, tu sors jamais un programme qui marche au premier coup, il faut être là pour voir comment ce qui se passe.
Réitérer dessus. Mais par contre, c'est possible qu'une fois que le truc est bien rodé.
C'est le cas aujourd'hui, il n'y a plus aucun auteur qui donne des cours. Là.
Ok. Voilà. Ouais, c'est intéressant cette dissociation en quelque sorte.
Je peux te donner quelques détails très techniques, mais quand on signe un contrat de ce type avec des auteurs, pour le format Emile, on leur demande normalement de faire. On leur dit qu'on peut leur demander à faire jusqu'aux 3 premières promotions des programmes pour être certain qu'on ait bien ajusté le tir. C'est pas obligé d'aller jusqu'à 3, hein, mais on peut se donner la possibilité d'aller jusqu'à 3.
Et c'est combien à peu près du coup, c'est des vidéos qu'ils doivent produire, c'est quoi la matière fin...
Alors, ouais, très bonne question aussi. Il y a une vidéo de 30 minutes en moyenne qui présente la partie théorique, les slides qui vont illustrer la vidéo. Donc ça, c'est pour la partie théorique. S'il y a du code aussi, la partie code. Sur la partie exercice, c'est des challenges. Donc ça va être à la fois tout le challenge écrit, les corrections, la correction vidéo. Et il y a aussi, tu vois, sur le no-code, il faut faire le webflow de correction. C'est-à-dire que demain, si on veut qu'il y ait un nouveau prof qui puisse enseigner la track webflow, il faut bien qu'on ait le webflow à disposition pour le prof. Il ne va pas à chaque fois se réamuser de tout refaire de son côté.
Bien sûr.
Ça n'a pas trop de sens. Voilà globalement ce qu'il y a.
Même si ça permettrait quelque part, ça permettrait de vérifier qu'il a bien le
niveau.
Mais bon, c'est
une vraie problématique ça aussi, un autre sujet. Mais...
ça ne doit pas être évident d'ailleurs de juste comment vous les trouvez, les recrutements. D'ailleurs, je vais te laisser répondre, mais après j'ai observé.
Il ne faudra pas qu'on oublie le deuxième critère pour la partie ops de tout à l'heure aussi, parce que là je t'ai parlé d'industrialiser les programmes.
Ouais.
Et donc c'est pour arriver sur ton point, mais l'autre partie pour industrialiser les programmes, c'est avoir une structure technique qui nous permette de lancer un nouveau programme très rapidement.
Ouais.
Et nous, Paul et moi, on a fait ça uniquement sur une stack no code, low code. Voilà. Donc principalement Webflow, Airtable. Et Zapier et Anaiten entre les deux. Et pour revenir sur ta question juste maintenant, comment est-ce qu'on trouve les gens? C'est LinkedIn. Hein. LinkedIn, c'est une mine d'or hein, pour trouver des profs pour nous.
Est-ce que du coup, ça devient pas plus facile maintenant grâce au wagon? Enfin, je dis ça parce que j'ai vu que Julien Mottet, que je connais un petit peu, du coup, c'est un alumni du wagon. Si j'ai pas, peut-être Benoît Éveillard aussi. Non, en tout cas, je sais qu'il a travaillé chez Skello, donc quelque part, c'est le, c'est la famille, c'est le réseau, quoi.
Ouais, c'est la mafia, le wagon.
Ouais, voilà.
Oui, clairement, c'est beaucoup plus simple. Hein. Ouais. Émile, la notoriété d'Émile est quand même relativement limitée, enfin, elle est totalement limitée par rapport au wagon. Hein, donc c'est beaucoup plus simple. Alors, en France, on avait notre réseau avec Paul qui faisait que c'était pas très compliqué hein, quand même d'y arriver en étant seul. Mais là, surtout, ce qui change tout pour nous, c'est la partie internationale, puisqu'on lance les programmes Émile là en anglais.
Ok.
Donc en mars, début avril, pardon, il y aura les premières cohortes en anglais. Et là, on a besoin de profs potentiellement allemands ou anglais. Et là, ça va tout changer pour nous.
Ah ouais, j'imagine. Oui, parce que sur la data, vous étiez déjà dans ce milieu-là.
Ouais.
Donc forcément, vous connaissiez d'autres gens qui bossaient là-dedans. Donc,
Tout à fait.
Ok. Et alors pour revenir, effectivement, t'as raison, t'es revenu dessus, mais sur le côté un peu no-code, low-code, vraiment des ops là-dessus, ça vous a permis de... En fait, tu vois, parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de la logistique que nécessite tu vois, de faire des cohortes de 15 personnes qui commencent à une date donnée. Je ne sais pas si tu veux donner un petit aperçu de ça, tu vois, comment les outils vous ont aidé.
Bien sûr. Bah, déjà, pour avoir 15 personnes... tu vas toucher 500 personnes. Voilà, c'est-à-dire que 500 personnes qui vont potentiellement télécharger ton programme détaillé ou qui vont aller à ton webinaire ou tu vas peut-être parler avec 50 personnes au téléphone. Voilà, parce que y a des gens qui sont curieux ou il y a des gens... Donc, il y a toute cette partie en amont un peu de CRM, au sens traditionnel du terme, qu'il faut gérer, hein, déjà de une. Et ensuite, toute la partie logistique, ça va être envoyer les élèves sur la bonne plateforme, créer des sessions de formation, staffer des profs. Donc, trouver des profs pour les sessions de formation, leur préparer tout ce qui est documents de formation pour le financement en France. Comme tu le sais, nous, on a tout le package CPF, tout ce genre de choses, mais ça, c'est très, très lourd d'un point de vue administratif.
Ouais, ça, c'est un des trucs qui m'a vachement impressionné, d'ailleurs, pour être honnête, quand on s'était parlé, qu'à deux, vous avez tout ça, et vous l'avez fait tout dès le début, non, en plus.
Ouais. Et je te l'avais déjà dit, donc je le dis parce qu'on est dans le podcast, c'est grâce à toi qu'on a réussi notamment à automatiser la création de documents et ce qui nous a changé notre vie, parce qu'après avoir regardé une vidéo sur votre chaîne YouTube, justement. La génération de documents, le stockage des documents, parce que si tu te fais contrôler par l'État, il faut que tu puisses prouver que tu as les documents aux bons endroits. Voilà. Et donc ça, Airtable, pour nous, c'est extraordinaire.
Toutes les signatures aussi, j'imagine.
Toutes les signatures. Il faut prouver que les gens ont fait les heures de formation. Donc on travaille avec EduSign, qui est une super boîte française, aussi, qui est branché grâce à son API aux outils no-code, et on envoie automatiquement à chaque session de formation la feuille d'émargement à la bonne personne, au bon prof.
Toute cette logistique là,
c'est assez lourd.
Et juste par curiosité, enfin, vous arriviez, tu disais il faut effectivement pour ce type de format parler aux gens au téléphone. Quand vous étiez deux, vous arriviez à parler à 50 personnes avant chaque ça, c'est parce que tu vois, enfin, je prends juste nos amis d'auto, tu vois, qui font aussi donc des formats bootcamp. Bah, ils ont une équipe de sales, tu vois, où ils ont 2-3 personnes qui font que ça, tu vois. Enfin...
Ouais, j'ai regardé le Calendly de l'année dernière de Paul et moi. On a intégré le wagon en juin. Entre janvier et juin, je pense qu'on a fait chacun 250 calls, quoi.
Oh, putain, chaque jour, tu vois, t'as plusieurs...
Ouais,
puis c'est des calls quand même commerciaux, quoi. C'est-à-dire, enfin, il faut
exactement,
que la personne a dans les trucs, mais quand même, l'enjeu aussi, c'est de les signer, entre guillemets.
Ouais, bien sûr. Bah, alors, oui, mais on est... toujours nous dans cette position aussi en tant que formateur où il faut pas trop vendre monts et merveilles aux gens non plus. Et il faut surtout s'assurer, parce que à l'inverse, si quelqu'un vient pour les mauvaises raisons chez toi, ça va être catastrophique pour lui mais pour toi aussi. Y a, bien sûr, il faut vendre, mais il faut faire attention. Alors au début, tu sais, on était forcément en mode test et on connaissait pas cette industrie, donc on était un peu en mode venez comme vous êtes. Et on en est vite revenu parce que en fait ça gâche l'expérience pour tout le monde.
Ça, c'est un des trucs des cohortes qui est quand même assez difficile, quoi. C'est l'effet de cohorte, c'est pas juste de mettre 15 personnes ensemble, quoi. C'est vraiment aussi d'assembler un groupe. Alors, pas forcément choisir, mais en tout cas éviter des gens. Des fois, il y a des gens, enfin, faut le dire, mais qui sont toxiques, qui peuvent ruiner. Une personne peut ruiner l'expérience pour 14 autres, quoi.
Et t'as deux niveaux de toxicité. T'as le niveau de toxicité de ne pas y arriver. Et en fait, ça peut créer pas mal de problèmes si les gens commencent à s'auto-censurer. Voilà, ça crée une dynamique. c'est pas de la faute de la personne malheureusement, mais c'est vrai que ça crée une mauvaise dynamique. Et après, t'as la personne toxique humaine.
Ouais, il y a plein de degrés là-dedans. Ouais. Et puis c'est, des fois, ça peut être plus ou moins pénible pour les autres gens directement. Alors des fois, bon, c'est transparent pour les autres gens. Par contre, c'est difficile pour le formateur. Ouais. Et si c'est difficile pour le formateur, bah ça se ressent dans ce qu'il va aussi donner aux autres.
Et même si tu fais les entretiens, alors au wagon par exemple, c'est l'extrême, encore plus extrême, puisqu'il y a des entretiens de motivation et des tests avant. Voilà. Donc, mais même en faisant ça, t'as des grosses hétérogénéités de niveau. Ouais. Dans le bootcamp. Et ça aussi, c'est difficile à gérer. Parce qu'en fait, s'il y a trop d'écart de niveau entre des gens qui travaillent ensemble, ça crée aussi une dynamique bizarre. Voilà. Ouais. Et nous, chez Emile, on le vit vraiment très souvent. Et maintenant, en fait, avant chaque session Emile, tu reçois un petit questionnaire de niveau, mais très très simple. Ouais. C'est vraiment pour la compréhension de base de ce que tu as regardé théoriquement avant.
Okay.
Et ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'avoir des groupes qui soient le moins hétérogènes possible. C'est impossible d'avoir des groupes homogènes, d'accord. On serait OK dans un monde totalement hypothétique qu'il y a un groupe des très forts, voilà, dans lequel le prof, en fait, intervient relativement peu, parce qu'ils arrivent à avancer seuls, et le prof, il vient une fois dans la session pour dire OK, enfin, pour les challenger un petit peu, et qu'il passe beaucoup de temps avec les gens un petit peu plus faibles. Voilà.
En fait, l'enjeu pour ce groupe plus fort, en général, c'est de les alimenter, quoi.
Ouais.
C'est souvent, c'est juste, mais ça, c'est des bibliothèques de contenu, d'exercices, par de choses à la.
Nous, chacun donner, de nos exercices, il y a toujours le petit truc à la fin pour les plus avancés, où là, on met vraiment des consignes. Alors, il n'y a pas de consignes déjà, c'est vraiment. C'est beaucoup moins guidé et c'est beaucoup plus dur.
Ouais.
Ça, on est sûr que tout le monde peut.
C'est comme un brief, des trucs.
Ouais. Plus, ouais, voilà.
Et est-ce que, du coup, on va arriver peut-être sur le wagon. Je vais faire la question en même temps, comme ça on va faire la transition, mais parce que je me pose la question, parce que le wagon a une plateforme de formation qui m'a toujours impressionné, que je trouve extraordinaire. Et du coup, est-ce que vous l'utilisez maintenant? Est-ce que, tu vois? Et peut-être, du coup, si tu veux faire la transition avec un peu comment ça s'est passé d'arriver au wagon.
Alors, le wagon a sa plateforme qui s'appelle Kit, effectivement, qui est 100% en code. Donc on a des équipes de dev chez nous. Donc là, on est 100% intégré sur Kit, sur la partie pédagogique. Donc quand vous faites un programme, on peut dire un programme Le Wagon maintenant, et les programmes Emile s'appellent les skill courses au wagon, pour les différencier des bootcamps. Donc si vous faites un skill course au wagon, vous êtes sur Kit, voilà, sur toute la partie pédagogique. Kit, c'est aussi un ATS pour les étudiants, enfin pour les peut-être futurs étudiants. Et donc cette partie-là, on utilise encore un petit peu Airtable, parce qu'il y a quelques spécificités en fait pour les skill courses qui sont pas forcément encore intégrées dans le truc. Donc on est un peu recréé le use case que tu décrivais tout à l'heure. C'est il y a une base technique, mais quand les équipes ops veulent faire un truc de leur côté, c'est pas mal de faire du no code avant de l'intégrer dans la mécanique globale. Voilà.
Ok.
Et l'histoire, en début 2022. On est rentré en contact avec les fondateurs, enfin, ils sont rentrés en contact avec nous. Bref, on a commencé à discuter avec les fondateurs du wagon. C'était, comme tu t'en doutes, pas du tout prévu pour Paul et moi, puisque premier batch chez Emile, c'est novembre 2020. Et tu vois, on commence à discuter avec Boris, Romain et Seb en février 2022, je crois, ou mars 2022. Donc 18 mois après le début.
22 ans, ouais.
Nous, on était à un moment avec Emile où, si on voulait un petit peu grossir encore, il fallait recruter. Voilà, donc on s'était dit, on va peut-être lever de la dette ou lever de l'argent, bref. Mais il ne nous manquait pas beaucoup, tu vois, mais juste pour passer le petit cap.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, comme ils nous ont contactés, on a commencé à discuter. En l'occurrence, il y avait un autre acteur aussi qui, dans à peu près le même timing, nous avait contacté. Et en fait, on s'est super bien entendu avec les trois. C'est pas de la langue de bois de podcast, hein, mais.
Je veux bien le croire.
On travaille avec eux quotidiennement et c'est génial, quoi, depuis qu'on est arrivé. Donc, on s'est très bien entendu. Le deal était super pour nous. En termes de culture d'entreprise, c'était génial. Le wagon, c'est vraiment trop cool. Et ça faisait beaucoup de sens aussi d'un point de vue stratégique. Voilà. Le wagon, en juin 2022, c'est une entreprise qui est présente dans plus de 50 villes, avec deux bootcamps qui sont plébiscités, parce que c'est le bootcamp le mieux noté au monde. Et où la problématique, ça devient, pour faire de la croissance sainement, en fait, il faut essayer de rajouter des programmes en fait, au catalogue global du wagon. Et nous, on est arrivé avec une offre déjà complémentaire. En fait, puisque tu peux très bien faire le bootcamp web dev et te rendre compte plus tard que tu as envie d'apprendre Python. Tu peux faire le skill course Emile, Python et machine learning, par exemple. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rapproché. Voilà.
Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, tu vois, que j'avais pas du tout compris en fait quand, tu vois, j'ai vu le truc de l'extérieur, c'est qu'en fait vous êtes arrivé non seulement avec ces cours, mais aussi avec cette méthodo de pouvoir déployer des nouveaux cours, quoi. Et d'ailleurs, du coup, toi, ton rôle, enfin ton titre maintenant, c'est justement autour de ce new product. Enfin, je sais plus, je veux pas dire une connerie. Alors, donc,
si tu demandes à Boris, je suis le VP innovation du wagon.
Ok.
c'est une blague. Hein. Non, je suis le VP new product.
Ouais,
donc,
même.
Paul, il a pris la partie contenu. Donc, il y a deux problématiques de contenu au wagon. Évidemment, c'est de produire des nouveaux contenus. Donc, pour les nouveaux produits qu'on va lancer, pour des offres B2B spécifiques, par exemple, et le maintien du contenu existant. Parce que tu te rends bien compte que les technos, elles t'attendent pas. Il faut régulièrement mettre à jour les bootcamps, les skill courses, ce genre de choses. Et moi, je suis là pour opérationnellement faire en sorte qu'on lance des nouveaux projets. Ouais, c'est ça notre savoir-faire un petit peu aujourd'hui. Donc, on a été intégré en juin. Et depuis juin, on a déjà lancé trois autres programmes en plus, puisqu'on a lancé un bootcamp pour devenir data analyst en octobre. Et là, en mars, on lance deux programmes courts autour du no-code.
Ouais. C'est intéressant. On va revenir justement là-dessus, tu vois. Mais il y a un truc que je trouve vraiment... Enfin, j'ai un peu dit tout à l'heure, tu vois. Mais c'est tu vois, les skills que tu mets en œuvre, toi... pour faire tout ça, quelque part, c'est aussi celle que vous apprenez. Quoi.
Ouais, après la data et le no-code, on va être un peu à court, parce qu'on aura fait le tour, mais ouais, on...
Bah c'est là, on va voir si tu vraiment...
si j'arrive à être créatif, ouais, non mais c'est vrai qu'on... Bah, le premier programme d'Emile, c'était la réflexion de base, hein, c'était quand on faisait des levées de fonds chez Shaper, j'avais mon associé Ludo qui passait son temps à demander aux équipes data des données ou des tableaux. On est parti de là, on s'est dit, mais en fait, on pourrait très bien, très rapidement apprendre à faire un petit peu de SQL, un petit peu de visualisation, et en fait, tu désengorges totalement les problématiques de data. Voilà, donc c'est ça qui est venu de base. Là, les programmes no-code qu'on lance, c'est que Emile, c'est que du no-code. Hein, voilà, donc nous, on a voulu tester notre proposition de valeur, on a fait une landing page sur Webflow. Voilà. On a voulu automatiser des process et de la création de documents, on a fait ça avec Zapier et Nighten au milieu. Et on a voulu créer un outil interne, parce qu'on voulait avoir un CRM qui était personnalisé. Pas utiliser HubSpot, et on voulait gérer les sessions de formation et tout ça, et on avait Airtable. Donc, en fait, on a recréé aussi un petit peu autour de ça.
Ok. Et est-ce que tu veux justement nous en dire un peu plus sur comment vont se passer ces skill courses? Notamment, moi, il y a un truc que j'ai noté qui m'a intrigué, on va dire, sur celui sur Airtable.
Ouais.
C'est que la manière dont c'était présenté sur le site donc, du wagon, c'était genre test ton idée, enfin un peu, tu vois, c'était très orienté produit.
Ouais.
Plus, en tout cas, dans le marketing, entre guillemets. Tu vois, ouais. Je ne sais pas après, justement, le contenu, et ça m'intéresse un petit peu d'en savoir plus, mais plus que faire un peu ce que tu as dit, faire ces outils internes ou un truc comme ça. Quoi. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est...
Alors, c'est une volonté marketing, puisqu'on a l'ambition, en toute humilité, de s'élargir autour de l'écosystème no-code qui existe déjà aujourd'hui en France, alors qui est extrêmement développé, hein, grâce à vous et grâce à d'autres. Nous, on veut vraiment... On pense vraiment que le no-code, c'est un outil de démocratisation des skills techniques, mais énorme. Voilà. Si on commence à dire qu'on a un programme internal tool Airtable, pas certain, tu vois, que ça parle à beaucoup de monde.
C'est vrai.
Si on parle de product development, par contre, parce que ça reste du développement produit de manière très galvaudée, hein, je suis d'accord, mais quand tu crées un CRM ou un tool en interne, c'est du développement produit.
Ah oui, sur les compétences, tu vois, qui sont mises en œuvre, c'est d'accord. Hein.
Et en fait, dans les faits, tu vois, on ne fait pas de la méthode agile dans ce programme du tout. D'ailleurs, on va, pour le programme, très rapidement, hein, on commence par expliquer la base, donc qu'est-ce que c'est qu'une base de données relationnelle, voilà, et à quoi ça sert Airtable, ce qui est assez difficile à expliquer, comme tu le sais. Ensuite, on crée une base de données Airtable avec les automatisations, etc. Et en plus, et après derrière, donc, tu as cité Julien, il y a Élise aussi qui travaille avec nous, sur la partie software. Donc on utilise les interfaces Airtable, mais aussi on montre qu'on peut créer des interfaces graphiques avec software.
Mais tu vois d'ailleurs, par exemple, software n'est pas du tout mis en avant, si je ne dis pas de bêtises, sur la page. Bon, c'est juste une remarque, hein, tu vois, je trouvais ça intéressant.
Tout ça y réfléchit, je ne sais pas si on réfléchit à tout, mais même sujet marketing.
Okay.
Un nom à rallonge, ça ne marche pas. Lequel des deux outils est le plus connu, Airtable? Parce qu'on veut aussi évidemment attirer la cible que tu connais. Hein. Nous, on a déjà des gens aujourd'hui qu'on voit, parce qu'on a déjà des inscrits pour mars, qui sont là parce que Airtable, ça a l'air bien. Airtable, ça a l'air puissant. Je veux apprendre Airtable. Donc, il fallait que l'Airtable, il arrive à un moment.
Ouais. Et moi, j'ai eu l'impression, en fait, ça m'a paru cohérent, tu vois, cette description, parce que je trouvais que ça ressemblait aussi à l'ADN du wagon, en fait, quelque part.
Ouais.
Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, en tout cas historiquement, je sais pas si c'est toujours le cas, qui venaient faire le wagon dans l'idée de lancer leur startup derrière, de tester des produits, ce truc un peu...
Le wagon, c'est un formidable vivier entrepreneur. Hein. C'est-à-dire que Je sors le chiffre un petit peu pour se faire mousser, mais on estime qu'il y a quasiment il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été levés par des boîtes qui ont été créées au wagon. C'est-à-dire que, ouais. Vraiment, tu vois, tu citais Skello tout à l'heure. Et moi, je pense que le no-code va nous permettre encore plus d'être autour de cet ADN à travers les skill courses, mais aussi on va lancer un bootcamp no-code. Ouais. Alors, je ne peux pas encore donner les dates, mais on va lancer un programme no-code. Et là, l'idée, c'est qu'à la fin, tu peux faire ton MVP. Ouais. En no code.
D'ailleurs, c'est. On va revenir dessus peut-être pour finir. On arrive sur la fin, mais juste si tu veux dire deux mots peut-être un peu du programme. Enfin, cela dit, tu l'as un peu évoqué, mais t'as parlé du bootcamp Airtable. Il y en a un autre sur Webflow.
Ouais.
Donc juste, enfin rapidement,
ouais, c'est gentil,
ce,
ouais.
Ce qu'il y a dedans.
Donc l'autre s'appelle Web Design et Webflow. Donc là, la problématique, c'est vraiment de créer site vitrine ou landing page sur Webflow. C'est écrit par Benoît Éveillard, donc justement qui travaillait sur le site de Skello, et Clément Gauchon, qui est un designer. Donc la track, elle suit le process d'itération de création d'une landing page. Donc réflexion sur la proposition de valeur et commencer à faire des sketchs. En fait, deux landing pages. On fait du Figma, justement, pour mettre un petit peu en musique tout ça. C'est la partie de Clément. Et on passe après sur la partie Webflow avec Benoît. Et dans la partie Webflow, on va sur les fonctionnalités quand même avancées de Webflow. Donc, la partie... Enfin, bien le travailler pour le SEO, toute la logique de symbole. Enfin, ça n'a plus de symbole maintenant, mais voilà, tout ce genre de choses. Et pour Product Development donc, et Airtable, un petit peu la même logique, réflexion un petit peu produit au démarrage, création et base de données relationnelles. On travaille dans Airtable, puis on travaille dans Software. Voilà. Parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous, on pense aussi que c'est un peu le paradoxe des outils no-code, c'est-à-dire qu'il y a cette promesse un petit peu de facilitation d'accession à la technique, mais pour vraiment maîtriser ces outils, si tu ne comprends pas ce que c'est une base de données relationnelle, ou si tu ne comprends pas ce que c'est la logique d'HTML CSS pour Webflow, en fait, tu peux utiliser l'outil, mais tu l'exploiteras jamais. En fait.
Ouais, c'est clair. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, ça marche dans l'autre sens. C'est que, comme tu l'as dit, c'est très dur d'expliquer ce que c'est une base de données relationnelle.
Ah oui, Airtable, c'est beaucoup plus simple.
C'est plus simple et ça permet d'amener des gens là-dedans, tu vois.
Ouais, bien sûr.
D'ailleurs, moi, c'est un truc, tu vois, que je me suis toujours dit, que j'en ai jamais parlé avec des gens du wagon parce que je connais pas trop, mais j'ai déjà dit, tu vois, à mes anciens collègues de Simplon, ils devraient commencer les cours de dev avec des cours de no-code, tu vois.
Ouais.
J'en suis vraiment convaincu, tu vois, parce que c'est et après switcher sur du dev, mais ça, à mon avis, ça facilite, ça fluidifie vachement. Parce que moi, j'ai vu à Simplon, franchement, au début, les gens
assez rude, ouais.
C'est dur le début.
Même tu vois le bootcamp web development, parce que moi, je travaille à côté d'eux, hein, donc je l'ai jamais fait moi personnellement, mais tu vois que les premiers jours sont rudes.
Ouais. Ouais, puis après tu rentres dedans et puis après ça redevient dur. Il y a un peu ce truc au début HTML CSS, bon c'est un peu bizarre, mais bon quand tu rentres dedans, bon il y a pas de logique et tout. Puis après il y a le JS qui te fait retomber donc bon enfin j'ai vu plein de fois mais c'est marrant et à mon avis le no code peut aider là-dedans.
Ouais,
on verra, tu vois, que à mon avis c'est un jour ou l'autre on verra un peu les bootcamps de dev, tu vois. Mais il y a un peu de dogmatisme aussi chez eux, c'est normal. Enfin moi j'étais dev, hein, tu vois, je pense qu'il y a un peu ce truc, bah nous non, on n'a pas besoin, tu vois, du no code. Je sais pas, en tout cas je parle pour les gens avec qui j'ai parlé, quoi. Mais
il y a un petit peu c'est pas ce sentiment de supériorité, mais de dire bon voilà, c'est pas technique, c'est ton joujou drag and drop à côté, quoi. Mais ouais, non, je pense que ça évolue assez vite quand même.
C'est clairement on le voit vraiment changer, quoi. Et oui, du coup, dernier sujet rapidement, mais donc ce bootcamp de 9 semaines.
Tout ça est pas encore très défini.
Okay.
Voilà,
enfin, format long, quoi, en tout cas. Enfin,
ouais, exactement.
Et
exactement.
Surtout, format, comme le format du wagon, c'est-à-dire intensif, toute la journée, quoi.
Oui, parce que on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a un petit peu des métiers qui émergent. Voilà.
Ouais.
Moi, ce que je vois aussi comme tendance et pour laquelle on devrait lancer un bootcamp, c'est, je pense que beaucoup d'entrepreneurs maintenant peuvent lancer des MVP qui tiennent bien la route en no code. Voilà, donc nous on regarde des trucs comme Bubble évidemment, mais on regarde des trucs comme WeWeb, je crois que c'est Nexo que tu peux brancher en dessous pour les bases de données, enfin bref.
Xano
pardon, ouais, désolé.
T'es dans les cryptos.
Ouais aussi, ouais. Ouais. Désolé. Xano, on regarde un petit peu tout ça et en fait tu peux vraiment faire des super MVP. Il y a aussi des business comme Emile, alors on n'aurait pas pu rester, je pense, uniquement sur du no-code si on avait 50 pays, d'accord. Et encore, peut-être qu'on pourrait réfléchir. Mais donc, cette cible entrepreneur pour lancer des MVP, je pense qu'il y a de quoi faire un bootcamp là-dessus. Et je pense aussi que le no-code, c'est génial si tu veux te lancer en freelance. Voilà. Et moi, je mettrais un petit peu mes 10 euros sur des gens qui travaillent dans le digital et qui veulent devenir freelance. Voilà. Qui veulent devenir makers, donc les fameux makers.
Ouais.
Et ça pourrait être un bon moment pour faire la transition, justement. vers être le freelance.
Ouais. Non, c'est intéressant parce que moi, je vois vraiment... peut-être que je te l'avais dit, hein, nous, au début, on voulait faire un bootcamp de 9 semaines, bah, vraiment sur l'inspiration du wagon, hein, tu vois, il y a longtemps. On n'a pas du tout trouvé notre public. C'était vraiment beaucoup trop tôt pour tout ça. Mais moi, j'aime bien les formats longs intensifs. Ouais. Tu vois, c'est... mais aujourd'hui, tu vois, je pense qu'il y a... Effectivement, je pense qu'il y a un truc de 9 semaines, un peu multi-outil. Enfin, 9 semaines. Je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps 9 semaines, mais tu sais, ça m'a marqué. C'est vraiment,
ouais, bien sûr.
C'est devenu un format un peu iconique, en quelque sorte. Mais tu vois, un format long comme ça sur pas mal de temps, un peu full stack entrepreneur.
Ouais.
Ça, je pense qu'il y a clairement... Enfin, encore une fois, hein, c'est un peu l'ADN du wagon aussi. Mais je pense que les gens qui font 9 semaines de no-code, à mon avis, ils produisent plus que ceux qui ont fait 9 semaines de code, pour être tout à fait honnête.
Je ne peux pas dire ça au podcast.
Non, mais je le dis. Non, mais parce que j'ai été dev, tu vois, et parce que le dev, c'est long, et tu veux faire une marketplace, même en Rails, tu vois, avec tout le scaffolding et tout ce qui existe, bah, je pense quand même que c'est plus efficace de faire avec Bubble, tu vas aller plus loin, quoi.
Oui, oui. Mais après, viendront plus vite les problématiques d'industrialisation sur la partie no-code, low-code, potentiellement, que sur la partie code.
Ouais. Mais tu vois, c'est là où, par contre, sur des trucs plus professionnalisants, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux, enfin, pas être full stack, tu vois, enfin, ce côté, tu vois, très faire du Airtable, du Bubble, etc., mais être plus spécialisé.
Ouais.
Soit, bah, tu fais que du Bubble, parce que si tu fais 9 semaines de Bubble, tu peux être vraiment très bon, si t'as les bons formateurs. Ou alors, bah, tu fais 9 semaines d'automatisation.
Ouais, bien sûr, ouais.
Tu vois, mais bon, c'est sûrement dans les réflexions que vous avez, mais voilà.
Oui, franchement, on est totalement transparent. Bah, tu vois, par exemple, Bubble, on voulait en faire un format Emile au démarrage, et on s'est dit, oulala, alors, 40 heures de pratique pour espérer faire bien du Bubble à la fin, ça va peut-être être compliqué. Ouais. Voilà, donc, nous, on est même en train de se dire, peut-être qu'il y aura deux bootcamps un jour. Voilà, il y aura un bootcamp full stack hors Bubble et un bootcamp Bubble.
Okay.
Voilà. Alors on n'en est pas là. Hein, voilà.
Ouais. Non, mais c'est.
Mais oui, effectivement.
Ça mérite, je pense, tu vois. Enfin,
ouais,
effectivement. Ouais. Mais ouais. Enfin, de toute façon, après, on pourrait en parler longtemps. Je suis assez curieux de voir ce que vous ferez. Mais c'est vrai que Bubbles, il y a ce côté très monolithique, très prendre du temps. Alors que peut-être qu'avec des trucs un peu plus modulaires, comme on aime bien dire, tu vois, WeWeb, Xano, etc. Peut-être qu'on peut aller plus vite, apprendre plus de compétences et plus autonomiser les gens.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils peuvent faire leur MVP, mais en plus, une fois que tu as compris Xano. Tu peux aller sur Supabase, tu peux aller sur Airtable même. Enfin, tu vois, tu peux avoir plusieurs options de back-end et pareil, un peu sur le front quelque part. Et donc, tu es très.
Ouais, et puis ce qu'on n'aime pas trop, c'est aussi que tu as plus de liberté. En fait, parce que ouais. Bubble, après, tu es quand même cloisonné. Alors, quand tu es dev, tu es dépendant d'une techno, d'accord, mais là, tu restes dépendant d'un outil. Enfin, je pense que ça n'arrivera pas, mais imagine Bubble demain. voilà, donc évidemment, ce que tu connais dans Bubble, tu pourras le reproduire dans d'autres outils. Ça, je ne dis pas. Mais...
Je pense que les compétences que tu as développées,
oui.
Souvent.
Mais il y aura un nouveau coup d'apprentissage, finalement.
Bien sûr, ouais.
Bah, que quand tu as une multipalette, tu es plus libre.
Comme tu disais, je pense que c'est la comparaison avec le dev est assez bonne. C'est-à-dire que quand tu connais qu'un langage de dev, que tu as été spécialisé, que tu as été formé sur un langage, il y a quand même un coût à en apprendre un deuxième. Quoi.
Ouais.
Quand on a appris plusieurs, que tu as un peu d'expérience, en apprendre un quatrième, un cinquième, ça devient plus facile. Quoi. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les trois premiers, tu les maîtrises parfaitement, mais tu as eu déjà cette démarche.
Ouais, bien sûr.
C'est un peu ce truc. Et du coup, je ferai un peu le parallèle effectivement avec les outils no-code. Quoi.
Mm-hmm.
Super, bah écoute, merci, on a fait un grand tour de tout ça. C'était assez passionnant, on pourrait en parler des heures. Juste une dernière petite question, un peu pour surfer un petit peu. Tu as prononcé tout à l'heure ChatGPT, et c'est vraiment, on est en plein dans ce sujet. Est-ce que c'est quoi, toi, un peu, je sais pas, ton avis un peu sur le côté IA, sachant qu'en fait, en réalité, sous les IA, il y a beaucoup de data, tu vois, mais ouais. Là, en ce moment, ce qui est très visible, c'est l'IA. Est-ce que c'est un truc, si tu dis, il faudrait faire un bootcamp là-dessus, est-ce que. Je sais pas.
Non, mais c'est. Ouais, on en discute. Alors, moi, mon truc de base, c'est que moi, je suis. Plutôt, je fais partie de ceux qui pensent que le progrès nous amène vers du meilleur. Hein. Peut-être que ça se discute, mais
ouais.
Voilà. Donc, moi, ma première réaction, je trouve ça extraordinaire. En fait, le truc est ouf. Enfin, j'ai galéré pendant 3 jours pour avoir un compte avec les problèmes de. Voilà,
ouais.
J'étais trop contente pour essayer ce truc. Voilà, donc, très enthousiaste, en tout cas. Et après, sur ce qu'on peut en faire, nous, bah, on réfléchit à pas mal de choses. Voilà, donc, en faire un bootcamp en tant que tel, pas tellement, ouais. Je pense, parce que voilà. En revanche, tu vois, pour mon cas personnel, hein, dans certaines de nos automatisations, Paul, il a mis des parties avec du script Python. D'accord, moi, je ne fais pas de Python. Okay, donc, je comprends le code. Donc, je peux bidouiller un petit peu. Là, en l'occurrence, je voulais faire une modification un peu plus poussée. J'ai envoyé dans ChatGPT le code, je lui ai demandé explique-moi le code. Voilà, il m'a expliqué le code. Et après, je lui ai dit j'aimerais faire telle ou telle modif, il m'a fait la modif.
Tu vois. Extraordinaire. C'est incroyable.
Extraordinaire.
Ouais. Après, je pense que tu vois, il y a une dimension moins visible, qui d'ailleurs existe depuis avant ChatGPT, c'est toutes les API que propose OpenAI, etc.
Ouais, bien sûr.
Et à mon avis, ça se trouve, il y a des trucs à faire, intégrer avec la data et tout, je sais pas. Mais en fait, finalement, c'est pas vraiment un nouveau truc, quoi.
Mais tu vois, pour le métier de dev, il y a Copilot sur GitHub qui permet en fait de vachement accélérer. Donc, ça, pareil, ça remplace pas le développeur, mais ça te permet d'accélérer énormément l'écriture du code. Donc, d'intégrer tout ça dans chacun de nos bootcamps.
Finalement, en fait, ça va devenir une compétence transverse, peut-être. Ouais. Quoi. C'est vrai que c'est, moi, c'est une réflexion un peu que je me fais aussi, enfin, spécifiquement plus sur ChatGPT, pas forcément les usages plus avancés, mais ce côté un peu. Tu vois, par exemple, nous, on a un petit cours sur les regexp. Et moi, j'ai envie que les gens, ils apprennent à faire des expressions régulières, tu vois, c'est hyper important. Moi, je trouve ça un outil... Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, ça, c'était un des gros use cases, tu vois. Bah, franchement, c'est hyper facile de faire générer... Mais tu vois, je me dis, si les gens, ils essaient de comprendre par eux-mêmes et ensuite qu'ils utilisent l'outil, déjà, ça t'aide à pratiquer, tu vois. Par exemple, ça peut te corriger tes exercices, tu vois, tes trucs au début, tu galères un peu, tu mets le début, un peu... Mais voilà, il ne faut pas que ça remplace. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment voir ces outils pour l'instant, en tout cas, comme de l'assistance. Et les gens qui sont un peu malins, qui vont bien les utiliser, par contre, ils vont décupler.
Mais on revient, tu vois, au truc un peu sous-jacent qui est commun à tous les programmes du wagon, à ce que vous faites chez Contournement, à ce qu'on a fait chez Mille, tout ça. C'est qu'aussi, pour apprendre, on ne peut pas apprendre à la place de l'étudiant. Et donc, il doit y avoir cette curiosité, cette capacité de formuler aussi des problématiques et des questions. Voilà. En fait, ChatGPT, si tu ne donnes pas aussi le bon input, il n'en sortira rien du tout. Quoi. En fait, et ça, il ne peut pas réfléchir à ta place. Donc, moi, je le vois vraiment encore comme un maximisateur, entre guillemets, de potentialité pour des gens comme le no-code, voilà, que comme quelque chose qui va remplacer tel ou tel métier.
Non, clairement. Bon, écoute, super intéressant. Ça fait une très bonne conclusion. Est-ce que si les gens veulent te suivre ou te contacter, ou est-ce que tu es un peu sur les réseaux sociaux, est-ce que vous partagez un peu des choses?
Je suis assez actif sur LinkedIn.
Okay.
Donc prénom, moi nom, mon nom comme tout le monde.
Okay. Je mettrai le lien de toute façon dans les notes.
Voilà, et je réponds à mes messages, à tous mes messages. Enfin, en tout cas, j'essaye. Voilà. Okay. Donc, ouais, avec plaisir, si des gens sont curieux, veulent s'impliquer sur des projets avec nous, tout ça.
Est-ce que vous recrutez?
On recrute énormément au wagon. Je ne sais pas combien de postes on a ouverts, mais oui. Donc ça, c'est sur Welcome to the Jungle. Ou sur le site du wagon, on a une partie recrutement qui est en bas là-bas. Voilà.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup et puis à bientôt.
Merci beaucoup.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet échange autant que moi vraiment j'ai trouvé ça passionnant encore une fois. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Thomas avant, mais toujours pareil, de se rencontrer, de passer un moment, même si elle est micro, voilà, c'était vraiment super agréable. Ça fait très longtemps, je l'ai jamais caché, que je suis assez admiratif de ce qu'a réussi à faire le wagon. Je les suis depuis un moment. Et donc forcément, de voir qu'ils se mettent au no-code, c'est un signal fort, c'est pas du tout anodin. Au-delà des enjeux qu'il peut y avoir, nous, Contournement en tant qu'organisme de formation, mais c'est surtout au niveau de l'écosystème, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est un acteur fort qui va apporter beaucoup de visibilité. Moi je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, je pense que ça va être de qualité, c'est un format intéressant. Voilà, on verra, je suis encore plus curieux, vous l'aurez peut-être compris, de voir vraiment le format long des 9 semaines. Parce que ça, c'est quelque chose où j'ai à la fois des doutes, des interrogations, et en même temps, moi, j'aime vraiment l'idée de faire des formats longs. Je pense que c'est là qu'on délivre vraiment de la valeur. Peut-être qu'on y reviendra un jour aussi. Je crois pas, nous, on est parti vraiment dans les formats très courts chez Contournement. Mais d'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de suivre les formats longs d'Emile, n'hésitez pas à venir voir ce que l'on propose chez Contournement si vous ne nous connaissez pas encore. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, ça me fait bizarre là de reparler dans le micro. Je suis un peu rouillé, on reprend le rythme, j'ai plusieurs épisodes qui sont prévus. On va mélanger, j'ai envie de créer des nouveaux formats, en même temps j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, j'ai plein de projets dans tous les sens, on a ce projet de No Code House, toujours avec Stan, qui s'est transformé un peu en festival à Barcelone la dernière semaine d'avril. Je vous en reparlerai, il y aura évidemment un épisode de podcast qui sera dédié à ça, ça va être une belle aventure, podcast en anglais aussi. Donc voilà, on va voir, mais en tout cas, on lâche pas le podcast de contournement pour l'instant, en tout cas on continue avec des entretiens de gens intéressants. Il y en aura un dès la semaine prochaine avec Aude de Panda Suite, encore aussi un très bel échange, j'ai beaucoup apprécié, même si je me suis un peu chié sur l'enregistrement au début, ça vous aurez l'occasion de le voir. Mais voilà, et ça c'était très cool, et je prévois, voilà, encore, j'ai la chance d'être un petit peu au milieu de cet écosystème no-code, au contact de plein de gens passionnants, donc j'essaye maintenant, je suis obligé de restreindre un peu, donc je choisis les gens avec qui j'ai le plus envie d'échanger quelque part, puis il y a des gens que, avec lesquels j'échange juste autour d'un café, mais j'ai pas forcément envie de sortir les micros. Mais voilà, quand je pense que ça peut être pertinent aussi pour vous à écouter, je prends le temps d'essayer de faire un enregistrement. N'hésitez pas si vous avez des idées de gens que vous aimeriez que j'interroge. Donc ça va sortir la semaine prochaine. Je pense pas que je tiendrai le rythme de un par semaine, même si j'aimerais bien. J'ai toujours l'idée de faire un épisode en public. Donc ça, on verra. Ça sera peut-être en avril. On verra. Peut-être je cherche un numéro sympa. Peut-être le 111. J'aime bien l'idée de faire un truc un peu exceptionnel pour l'épisode 111. On verra, je sais pas, mais et puis j'ai envie aussi de faire des formats un peu différents, plus un peu avec des chroniques, des choses comme ça, vous verrez. Merci encore comme d'habitude d'être là, d'écouter, de faire des retours, de m'envoyer des petits emojis après que vous ayez écouté les épisodes. C'est hyper cool, ça me donne la motivation pour continuer, parce que j'avoue que des fois je suis un peu moins motivé, puis on est pris par des projets, et puis on a tout le temps envie de trouver des nouvelles idées, des nouveaux projets, des choses comme ça. Et aussi maintenant on est en train d'avancer quand même sur les sujets, d'avoir un lieu à Paris où ça va nous simplifier aussi un petit peu la vie pour enregistrer les podcasts et tout. Donc ça c'est aussi une autre bonne nouvelle pour ce podcast. Voilà, écoutez, merci beaucoup, à bientôt, et puis no code est bien d'ici là.